9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS pour votre santé, bonjour et bienvenue. Je reçois ce matin Laura Aznar. Ça fait plaisir de vous voir, Laura.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes naturopathe, vous êtes spécialiste de l'arthrose, du jeûne et de la médecine Ayurveda.
Exactement.
Et vous êtes auteur de Le jeûne, ça marche aux éditions d'Angle. Et cette émission, eh bien, nous en avons parlé il y a quelques mois quand vous êtes venu pour la première fois.
C'est vrai.
On avait parlé de cette émission pour le jeûne et vous avez bossé. Et c'est grâce à vous que nous recevons aujourd'hui le docteur Jacques Roulier. Bonjour docteur.
Bonjour Philippe.
Vous êtes médecin généraliste formé à la médecine du jeûne, membre fondateur de l'Académie médicale du jeûne que vous avez fondée en 2019. Alors cette Académie médicale est une association à but non lucratif. Quel est le but de votre association ?
Informer et former les confrères, les consoeurs, sur les avantages et les inconvénients du jeûne. C'est-à-dire on se base pour l'essentiel sur la littérature scientifique et aussi sur une expérience empirique qui est millénaire et qui commence maintenant à trouver des explications scientifiques.
Mais il faut dire qu'aujourd'hui, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, les médecins en France ne sont pas tous très favorables aux jeunes.
En France.
En France. Mais voilà, il y a du boulot pour convaincre vos confrères. Il y a une méfiance, on va dire.
C'est ce à quoi nous nous attelons, parce que la plupart des critiques qui sont faites par le monde médical français, je le répète, c'est pour l'essentiel le résultat d'une méconnaissance du jeûne.
Ce qu'on va expliquer, on parle du jeûne thérapeutique ce matin. C'est pour ça que l'année dernière, vous avez organisé pour la première fois une manifestation, hein, les 100 km de jeûne. C'était un objectif pour communiquer.
Exactement. On était une quinzaine de médecins et quelques accompagnateurs de la Fédération francophone de jeûne et randonnée. Et l'objectif était de montrer de façon extrêmement pratique qu'on peut ne pas manger pendant une semaine. Ne pas manger, c'est-à-dire vraiment ne rien manger et s'hydrater, boire, et avoir une activité physique, puisqu'on marchait entre 15 et 20 km par jour. Et on a parcouru entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo, le sentier côtier, qui est magnifique à cet endroit, en Bretagne. En jeûnant, on a fait 100 km. Et quand on est arrivé à Saint-Malo, les marcheurs jeûneurs étaient autant, sinon plus, en forme qu'au départ.
Bien.
C'était des médecins.
Oui. Alors comment on appelle cette façon de jeûner en buvant ? Parce que alors ceux qui ont l'habitude de jeûner pendant le mois du Ramadan vont vous dire « Attends, mais c'est pas un jeûne s'ils boivent ».
Le Ramadan, c'est un jeûne intermittent. Le jeûne, alors il y a le jeûne que nous préconisons sur le plan médical, qui est le jeûne inspiré de la méthode du docteur Otto Buchinger, qui est un médecin allemand, qui dans son histoire personnelle a été victime d'une maladie qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu, qui est la conséquence d'une angine à streptocoque, pour être précis. Et c'est quelque chose qui, on va dire, a un résultat qui s'apparente à une soudure des articulations. Et il a expérimenté d'abord sur lui-même un jeûne assez prolongé, de presque 3 semaines. Il a affiné cette méthode et il a fini par l'appliquer à ses patients. Et cette méthode, elle est finalement très simple. Elle est une association entre une restriction calorique très 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 forte, c'est-à-dire on est en dessous de 200-250 kilocalories par jour, on s'hydrate abondamment et on a une activité physique. Et ça, c'est un des paramètres essentiels, parce que cette activité physique, elle contribue au confort et à l'efficacité du jeûne.
Il y a 10 ans, en 2014, donc première expérience de jeûne d'une semaine avec votre épouse. Qu'est-ce qui vous a motivé?
Un documentaire que beaucoup de gens ont vu, qui est le documentaire de Thierry de Lestrade et Sylvie Gilman, qui s'appelle « Le jeûne, une nouvelle thérapie ». D'ailleurs, une anecdote à ce sujet que vous connaissez peut-être. Le jeûne, une nouvelle thérapie, c'est le titre du documentaire qui, en français, s'écrit « Le jeûne, une nouvelle thérapie, point d'interrogation ». Ce même documentaire, quand il a été diffusé en Allemagne, c'est « Le jeûne, une nouvelle thérapie, point ».
Aujourd'hui, en Allemagne, c'est remboursé par la Sécurité sociale.
Par certaines assurances maladie, oui.
Oui, il faut expliquer.
C'est
la différence de...
On est dans des univers...
De paradigme.
Dans des univers totalement différents. Le professeur Andreas Michelsen, qui est interniste, qui est un professeur dans le plus grand hôpital d'Europe, qui est l'hôpital de la Charité à Berlin, il est donc médecin, chef de service et naturopathe.
Vous, Laura, première expérience de jeûne suite à l'annonce d'une maladie ?
tout pareil, tout comme Jacques, il y a 10 ans, on m'annonce donc une arthrose sévère. Je fais le parcours de tous les arthrosiques, injections, infiltrations, sans guère de résultats. Et puis je tombe au hasard, vous savez ce qu'on dit du hasard, sur un livre qui prône les vertus anti-inflammatoires du jeûne. J'avais compris que cette arthrose sévère était liée à un terrain inflammatoire. Donc du coup, je suis partie jeûner sans absolument rien connaître ni savoir de ce qui allait m'attendre. Et effectivement, incroyable, et c'est généralement comme ça en fait que le perçoivent les jeûneurs. Au bout du troisième ou quatrième jour, vous avez une espèce de renaissance en fait anti-inflammatoire pour ceux qui ont des troubles inflammatoires. Moi, en tous les cas, j'arrive à me redresser et à remarcher sans les mains, sans bâton, etc. Et le champ des possibles s'ouvre.
Bon, comment est-ce qu'on appelle le premier repas de la journée ?
Le petit déjeuner.
En anglais, on dit
Breakfast, c'est-à-dire la rupture du jeûne.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, déjà, on jeûne sans le savoir.
Tout le monde jeûne, oui.
Tout le monde jeûne, en fait.
Naturellement. On va dire que le jeûne qui est nocturne, qui se passe, on va dire, de façon habituelle entre le dîner et le petit déjeuner, pour la plupart d'entre nous, c'est une période de repos digestif et qui est aussi une petite période de nettoyage. Mais c'est un peu comme le ménage qu'on fait tous les jours chez soi. De temps en temps, ça peut être intéressant d'ouvrir grand les fenêtres, de sortir les tapis, de se débarrasser des vieux papiers, etc., pour prendre une comparaison un peu imagée. Et c'est ça le jeûne, c'est-à-dire c'est un grand nettoyage qui se fait de façon totalement naturelle, qui ne demande pas de capacité particulière, pour lesquelles il y a, on va dire, sur le plan médical, des indications et aussi des contre-indications, parce que, bon, quand tous les moyens à prétention thérapeutique, ça ne réussit pas de la même façon pour tout le monde. Mais ce grand nettoyage, c'est quelque chose qui est à la fois naturel, très simple, et dont les vertus sont de plus en plus comprises.
Et tous les organismes ne réagissent pas tous de la même façon au jeûne. Ça qu'il faut expliquer quand même, hein.
C'est, j'ai envie de dire, pour critiquer la médecine conventionnelle, c'est le problème des protocoles. C'est-à-dire, nous appartenons tous à la même espèce. Nous avons tous un nez, deux yeux, deux bras, deux jambes, mais nous avons aussi tous nos particularités. Les gens qui travaillent sur le microbiote intestinal savent très bien que nous avons notre propre microbiote qui ne ressemble absolument pas à celui de notre voisin. On peut nous identifier aussi sûrement qu'avec les empreintes digitales à partir de
notre signature, en fait.
Voilà. Et donc, ces particularités font qu'on ne réagit pas de la même manière aux médicaments, au traitement, quel qu'il soit, et on ne traverse pas non plus une période d'abstinence alimentaire ou de restriction calorique de la même façon.
Et leur message à tout le monde, on ne se lance pas dans un jeûne comme ça, sans préparation.
C'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui s'anticipe, c'est aussi quelque chose qui se choisit. C'est-à-dire, il y a une différence fondamentale entre être privé de nourriture, ce qui est toujours associé, on va dire, dans l'esprit de chacun de nous à des événements extrêmement désagréables. Hein. Quand on ne mange pas, c'est soit la misère, la guerre, la torture, la privation. Enfin bon, déjà quand on prononce le nom de régime, il y a beaucoup de gens qui reculent, à raison. D'une part parce que c'est contraignant, d'autre part parce que souvent c'est très inefficace. Mais le fait de volontairement choisir de ne pas manger, ça change tout. Oui. Ensuite, la préparation, elle se fait sur un plan alimentaire parce qu'on va faire une décroissance ou une descente alimentaire progressive en restreignant petit à petit surtout la qualité, les certains types d'aliments qui vont être progressivement supprimés ou évités.
Quelle famille, par exemple ?
Alors, le plus important, c'est de restreindre les glucides. Le plus important. Et puis, les produits animaux. Mais l'objectif, c'est de se rapprocher petit à petit d'une bascule métabolique, qu'on appelle la cétose, c'est-à-dire d'un changement de source d'énergie. Au lieu d'utiliser le glucose, qui est la source la plus utilisée, habituellement à l'état nourri, on va utiliser d'autres substrats métaboliques, c'est-à-dire les acides gras pour l'activité musculaire. Et puis, ces acides gras, quand ils sont oxydés par le foie, on va les utiliser sous forme de corps cétonique, qui vont être l'aliment préféré de nos neurones. Et c'est pour ça qu'au bout de 2-3 jours de jeûne, on se sent tellement bien.
On plane.
Non, on n'a pas d'hallucination. c'est tout à fait légal, hein, je le précise.
Je vous ai dit tout à l'heure, on va faire une émission sur le jeûne thérapeutique. Et vous m'avez dit finalement, est-ce qu'on peut accoler ces deux mots côte à côte ?
Alors, si on écoute Laura avec une grande légitimité, vraiment. Si,
alors, Laura, on va écouter Laura, alors. Hein, puisque si on écoute Laura, on peut associer jeunes et thérapeutiques.
Merci, absolument. Jacques. Alors, moi, en fait, je fais partie de la Fédération francophone de jeunes et randonnées, dont parlait Jacques. Et effectivement, moi, j'ai, en tant que naturopathe, je ne propose pas des jeunes thérapeutiques, mais des jeunes à des personnes qui sont en état de marche, en fait, aussi bien physiologique que mécanique, puisque nous allons randonner. Et effectivement, grâce à l'Académie médicale du jeune aujourd'hui en France, il va être possible en fait de bénéficier d'un accompagnement médical si vous en avez besoin, si votre vitalité ou votre maladie le nécessite, ce qui n'était pas le cas avant eux.
Les détracteurs du jeûne disent oui, mais de toute façon, le jeûne, c'est quelque chose qui est proposé par les naturopathes. Hein, perché dans le Larzac. C'est un peu l'image qu'ils veulent véhiculer.
Oui. Oui. Non, alors par exemple, dans la Fédération francophone de jeunes et randonnées, et c'est pour ça que je les ai rejoints, il y a tout un parcours en fait de formation extrêmement sérieux et professionnel en continu, des formations d'ailleurs qui sont proposées par les médecins de l'Académie. Et l'idée, en fait, la première chose que fait un jeuneur lorsqu'il jeûne dans un de nos centres, c'est de payer de la sécurité. Donc on est bien loin de l'image, effectivement, du naturopathe dans le Larzac et qui fait jeûner les gens comme ça, spontanément, sans préparation, sans accompagnement.
Alors, au niveau de la littérature scientifique, qu'est-ce qui est scientifiquement prouvé, docteur Houllier, sur, on va dire, le jeûne thérapeutique?
Alors, il y a, je dirais, deux versants. Il y a un versant qui est scientifique, on va dire scientifique un peu dur, la biologie, la physiologie, la biochimie, où là, ça a permis de comprendre comment est-ce que les mécanismes métaboliques se mettent en place quand on jeûne. Ça, c'est l'appréciation qui a été faite depuis, on va dire, une trentaine d'années, avec une abondance de littérature qui s'accroît de plus en plus, par des gens comme Walter Longo, par le professeur Michelsen dont je parlais, par Mark Mattson, par Robin Ménage, enfin toute une équipe de gens internationales aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, qui travaillent sur les mécanismes intimes, j'ai envie de dire, du jeûne. Donc ça a permis de comprendre, à partir du moment où, par exemple, nos réserves qui sont immédiatement disponibles, c'est-à-dire le glycogène. Le glycogène, c'est quoi? C'est des petites molécules de glucose qui se tiennent par la main. La main droite dans la main gauche, et ainsi de suite. Quand ces molécules de glycogène ont besoin d'être utilisées, on a des enzymes spécialisées qui vont les découper, qui vont mobiliser donc le glucose en l'absence de nourriture pendant un certain temps, puis il y a un moment où le glycogène, il est épuisé. Et parallèlement, notre organisme, qui sait parfaitement bien utiliser ses ressources, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans le patrimoine génétique, il va tout à fait simplement utiliser les triglycérides du tissu adipeux pour
qu'est-ce qu'il va en faire?
Il va fabriquer de l'énergie, c'est-à-dire qu'il va scinder les triglycérides en acides gras et les triglycérides, il les dissocie en glycérol et en acide gras. Les acides gras peuvent être utilisés tels quels, oxydés dans les muscles pour fabriquer de l'énergie mécanique. Et le glycérol, lui, va être transformé soit en glycérol, soit en d'autres corps qui n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qui est essentiel, c'est que les acides gras peuvent eux aussi être transformés, mais là, c'est le travail du foie, en corps cétonique. Les corps cétoniques sont l'aliment préféré des neurones, c'est-à-dire du système nerveux central.
Bien, on parle du jeûne thérapeutique ce matin jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Ah, tant pis, on va utiliser l'expression. On parle du jeûne thérapeutique avec nos invités ce matin. Laura Aznar, qui est naturopathe et spécialiste de l'arthrose, du jeûne et de la médecine Ayurveda. Et le docteur Jacques Houllier, qui est médecin généraliste et qui est le créateur. Hein, puisque vous étiez combien au moment de la création de l'académie?
Je suis un des créateurs. C'est un tout petit groupuscule de 4 personnes au départ.
L'académie médicale du jeûne. Voilà. Dont votre épouse, avec qui vous avez fait votre premier jeûne.
Première expérience.
Et c'est vrai que le jeûne thérapeutique est encore très mal connu en médecine. Alors, on était en train de voir, avant la pause, ce qui se passait à l'intérieur de l'organisme et le métabolisme au moment du jeûne. Mais on a eu un prix Nobel aussi.
Alors, le prix Nobel, c'est un prix Nobel qui a été accordé en 2016 à un monsieur japonais et à son équipe, qui travaillait depuis 30 ou 40 ans sur un mécanisme qui s'appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est un mécanisme tout à fait naturel cellulaire, qui appartient d'ailleurs non seulement au monde animal, mais même au monde végétal, qui est qu'une cellule qui est privée d'énergie va se mettre en mode protection et va recycler ses composants cellulaires. Vous savez, ces petits organites qui ont des noms exotiques, les mitochondries, le réticulum endoplasmique et autres...
Ça devient des stars, ça, en ce moment. Hein.
Voilà. Voilà, ouais. Ce qui est mitochondrial devient presque commercial. Mais ça, c'est l'exploitation habituelle. En termes de santé, l'exploitation précède souvent les certitudes.
Mais en gros, le processus, c'est quoi? Les mauvaises cellules se mangent entre elles
Non, les cellules qui sont anormales ne savent pas du tout faire ça, ou très très mal. Elles supportent mal l'absence de nourriture. Je parle des cellules anormales. Alors, les cellules tumorales, qui malheureusement, selon les données les plus récentes, arriveraient quand même à s'adapter à cette absence de nourriture. Mais enfin, de toute façon, elles sont moins bien équipées sur le plan génétique, puisque leur génome est en partie perturbé, leur métabolisme est très perturbé. Et donc, elles s'adaptent mal à l'absence de nourriture, de glucose. Il y a des exemples, on a un exemple de publication, par exemple, qui est que des cellules de glioblastome, qui est une tumeur cérébrale qui est vraiment pas très bon pronostic, les cellules tumorales ne peuvent pas croître quand elles sont baignées, alimentées en corps cétonique. Donc c'est intéressant ça, mais on est encore dans le domaine de la recherche fondamentale pour ça.
Et si après on se réalimente et qu'on reprend du glucose, qu'est-ce qui se passe?
Ça dépend du contexte. Nous connaissons des personnes qui ont été malheureusement atteintes de cancer, de cancer du rein, de cancer des poumons, voire de cancer métastasé, et qui ont réussi à maîtriser l'évolution de leur maladie. Non pas à guérir, mais à maîtriser l'évolution de leur maladie, je reste prudent, en alternant des périodes de jeûne intermittent, de jeûne un peu plus prolongé, ou de régime cétogène, qui est quelque chose, un mode alimentaire qui va restreindre énormément les sucres et les glucides dans l'alimentation et qui donc va avoir des vertus qui s'approchent un peu du jeûne.
Après, la question que se posent les médecins et les nutritionnistes, c'est est-ce qu'on peut tenir un régime cétogène sur la durée?
Moi, je connais quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans, sans aucun problème. C'est quelqu'un dont on peut parler. Il s'appelle Jean-Jacques Trochon. C'est un pilote, ex-pilote de ligne de la compagnie Air France, qui pilotait des longs courriers et qui a eu un cancer du rein métastasé au poumon. Il se porte très bien. Son cancer a dû se déclarer en 2003.
20 ans. Alors, quand on parle de jeûne thérapeutique, Laura, de quoi parle-t-on? Ça dure combien de temps? Qu'est-ce qu'on mange dans une journée et qu'est-ce qu'on fait?
Alors, le jeûne thérapeutique, c'est plutôt au docteur, qu'il faudrait se tourner. Moi, encore une fois, c'est plutôt du jeûne de bien-être. Et par exemple, quand on parle de l'autophagie d'une façon peut-être plus légère, c'est incroyable parce qu'on lui doit à cette autophagie, par exemple, la disparition des taches de vieillesse, des verrues, un grain de peau qui va s'affiner, un teint qui va s'illuminer. Vous voyez, donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que selon qui on est, qu'est-ce qu'on recherche à travers le jeûne, ce jeûne peut-être thérapeutique, encore une fois avec accompagnement médical ou bien plus léger.
Alors sur la durée, docteur, peut parler de jeûne thérapeutique sur une durée de combien de temps à peu près?
Ça dépend de chacun. C'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes tous différents. Il y a des gens qui vont bénéficier d'un jeûne intermittent au quotidien. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'un jeûne un petit peu plus long pour nettoyer un peu plus en profondeur. On n'a pas les moyens, je dirais, en France, parce qu'il n'y a pas encore de clinique ou d'hôpital avec une surveillance médicale 24 heures sur 24 par une équipe médicale. On n'a pas les moyens d'accompagner des jeunes plus long qu'une semaine. Et ceux qui sont accompagnés par un médecin pendant une semaine, ça se fait en ambulatoire. Donc,
c'est la limite en France, c'est 7 jours.
Voilà, 7, on va dire 7, 8, 10 jours. Il y a, c'est la limite de ce que nous conseillons et c'est une limite qui est une limite de sécurité, qui est recommandée au sein de la Fédération francophone de jeunes et randonnées et par l'Académie médicale du jeune, simplement pour une raison de sûreté. Parce que on est absolument certain, en respectant la modalité de jeûne selon Buchinger et cette durée, qu'on ne prend aucun risque. On en est sûr. Après, si on s'intéresse à ce qui se fait dans d'autres pays, par exemple en Allemagne ou en Autriche, en Suisse, enfin bon, en Europe et aux États-Unis, il y a des gens qui vont jeûner plus longtemps dans des structures quelquefois adaptées.
C'est-à-dire plus longtemps, docteur ?
On peut. Vous savez combien de temps vous pouvez sans prendre aucun risque jeûner, c'est-à-dire ne rien manger ?
Je le sais. Alors, je peux pas. Si je vous le dis, c'est une quarantaine de jours, je pense.
Bon, on dit entre 3 et 4 semaines. Hein. Ceci dit, ça dépend aussi de la constitution de chacun. Les gens qui ont une très grosse masse musculaire peuvent jeûner un peu plus longtemps. Les gens qui sont en surpoids ont une possibilité de mobiliser leurs réserves pendant plus longtemps. Le record, qui est une histoire, c'est historique, mais c'est un monsieur qui était écossais, qui s'appelait Angus, son prénom, et il a jeûné pendant plus d'un an. Sous surveillance médicale, ça a été publié.
Alors quand on parle de jeûner, c'est pas zéro calorie dans la journée quand même, hein.
C'est pas zéro, mais c'est moins de 200 en ce qui concerne la méthode Buchinger.
Donc sous quelle forme ?
Les calories qu'on ingère. Ouais. Alors, on va dire c'est presque symbolique. En général, ça se présente sous la forme d'un jus de légumes et de fruits, plutôt légumes que fruits, c'est-à-dire 3/4 ou 4/5 légumes et un quart ou un cinquième de fruits qu'on va prendre le matin. C'est peut-être plus pour le confort et pour la satisfaction des papilles, parce qu'on développe pas une carence en vitamines en une semaine, hein, à moins qu'on l'ait déjà auparavant. Et puis le soir, on prend la plupart du temps un bouillon ou un bouillon de légumes ou qui consiste à apporter un peu de sel et des sels minéraux. Le sel, c'est important parce que c'est ce qui contribue à maintenir la pression artérielle. Et en temps normal, on a tendance à en consommer un peu trop. Alors que quand on jeûne, on passe de peut-être 7-8 grammes par jour, ce qui est excessif, mais on passe à zéro. Donc c'est pour ça qu'un petit apport en sel, ça permet de moins ressentir une espèce de fatigue artificielle qui est liée simplement à la baisse de la pression artérielle.
On a parlé des personnes en surpoids tout à l'heure, mais est-ce que ça veut dire que les personnes qui n'ont pas de poids à perdre et qui a priori n'ont pas de graisse peuvent jeûner ?
Personne n'est exempt de graisse. Nous avons tous de la graisse, nous avons tous des réserves, en plus ou moins grande quantité. Mais là, on touche du doigt une des contre-indications du jeûne, c'est l'index de masse corporelle en dessous de 18 ou 18,5. C'est-à-dire les gens qui sont déjà plus que minces, maigres, on va dire que ça peut représenter une contre-indication du jeûne. Mais ça tombe sous le sens, c'est comme la dénutrition, c'est comme certaines maladies où le jeûne... C'est que ça reste quand même... Une épreuve relative, même pour les gens en bonne santé, qui est une épreuve qui tient à la nécessité d'adaptation métabolique. D'ailleurs, le deuxième jeûne, en général, se passe beaucoup plus simplement que le premier, parce qu'on n'a plus cette appréhension qui peut constituer un obstacle et qui fait que, bon, on se dit, bah oui, je l'ai déjà fait, je connais.
On dit, Laura, que le corps a une mémoire du jeûne.
Oui, c'est exactement ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça, c'est avec plaisir qu'on a la chance de réaccueillir, en fait, nos jeûneurs qui reviennent et re-reviennent et re-reviennent. Parce qu'effectivement, plus vous jeûnez, plus le corps connaît le chemin, en fait, et plus c'est facile. Et effectivement, en toute logique, moi, j'aime beaucoup le docteur Lionel Coutron qui a préfacé mon livre sur le jeûne et qui explique en toute logique...
Il a écrit un très bon livre sur le jeûne, d'ailleurs, lui aussi.
Oui, l'art de... le jeûne, tout simplement. Le jeûne. Et effectivement, plus on jeûne, plus on arrive à réformer son hygiène alimentaire, son hygiène de vie, tout simplement. Et du coup, plus l'entrée en jeûne se fait facilement, plus le jeûne est facile, plus l'hygiène de vie s'améliore. Et lui, ce qu'il explique, c'est qu'en toute logique, on devrait arriver à une hygiène de vie qui fait qu'on pourrait rentrer en jeûne bien plus facilement. Et le jeûne, j'aime beaucoup aussi Volémy de Toledo, le docteur Volémy de Toledo, qui considère que peu importe, parce que bien souvent, comme c'est aussi une affaire de mode, on a l'impression que plus vous jeûnez, plus c'est jouer les gros bras. En fait, non, c'est vraiment qui tu es, qu'est-ce que tu attends à travers le jeûne, quelle est ton histoire par rapport au jeûne, quelle est ton histoire par rapport à ton hygiène de vie, qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment aussi, parce que ça compte, est-ce que tu es dans une période de fatigue ou pas, et à partir de là, on peut mettre en place un jeûne en toute sérénité. J'aimerais vraiment que nos auditeurs aient ça en tête, le jeûne doit être confortable, et pour qu'il soit confortable, il faut absolument pas qu'il soit dangereux, ni improvisé n'importe comment, comme vous le disiez à juste titre tout à l'heure. Donc pour une première expérience, il vaut mieux jeûner accompagné pour comprendre les limites de son son corps, son fonctionnement, et pour pouvoir ensuite introduire le jeûne dans sa vie, tout simplement.
Oui, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on jeûne pas du jour au lendemain. Non. C'est progressif. Hein. On commence à supprimer les familles d'aliments.
C'est généralement pour une période d'une semaine de jeûne. On a une préparation sur une semaine qui, effectivement, équivaut à enlever jour après jour des familles d'aliments jusqu'à être à une consommation de jus, de fruits, de légumes la veille de votre entrée en jeûne. Et on a une reprise alimentaire qui est à peu près du même acabit, mais en sens inverse.
Est-ce qu'il y a une bonne saison, une saisonnalité pour jeûner ?
Traditionnellement, il y a beaucoup de gens qui aiment bien coupler le jeûne avec les périodes d'équinoxe, c'est-à-dire à l'automne et au printemps, au moment où l'équinoxe, au moment où le jour est égal à la nuit. J'ajouterais, pour compléter ce que dit Laura, on peut jeûner de préférence en groupe, et j'ai envie de dire bien accompagné, c'est-à-dire pas avec n'importe qui. Alors là, il y a un paramètre essentiel qui est, il existe en France, donc la Fédération francophone de jeûne et randonnée, avec des accompagnateurs professionnels formés. Et malheureusement, on a eu quelques moutons noirs dans l'accompagnement du jeûne, non pas au sein de la fédération, mais en dehors, avec des gens qui se sont fait embarquer dans des aventures plus que risquées, avec évidemment quelquefois des accidents dramatiques qui ont été montés en épingle par les adversaires du jeûne. On ne jeûne pas seul et on ne jeûne pas avec n'importe qui.
Il y a un label de confiance ?
Celui de la Fédération francophone de jeûne et randonnée, la FFJR. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Académie médicale du jeûne s'est très spontanément rapprochée de la FFJR, parce que j'ai envie de dire, on est entre gens un peu sérieux, quoi. On fait pas n'importe quoi, on étudie, on échange. Je vous parlais tout à l'heure des publications scientifiques. On a aussi au sein de l'Académie énormément bénéficié de l'expérience des accompagnateurs de jeûne qui, eux, ont 30 ans d'avance sur nous. Les naturopathes ont 30 ans d'avance sur les médecins.
Mais bon, alors les détracteurs disent, toute la littérature qu'on a scientifique aujourd'hui, c'est de la littérature des pays de l'Est.
Des pays de l'Est, non. Le problème, c'est le problème de l'évaluation. L'évaluation d'un moyen thérapeutique, c'est un vaste problème. C'est-à-dire, comment faire la différence entre les effets simplement de la restriction calorique, les effets d'une parenthèse d'une semaine où on va s'occuper de soi, où on va être attentif à sa propre santé, où on est, comme on dit, proactif. Et ça, tous les médecins savent à quel point ça change le devenir des patients. Et puis, les informations qu'on va avoir sur la nutrition, sur l'hygiène alimentaire, sur la bonne façon de se nourrir, tout ça constitue un tout. Et on a très clairement des choses extrêmement favorable à l'issue de ce genre de séjour.
Je rappelle à Laura Aznar que vous avez écrit un livre sur le jeûne, sur votre expérience, des interviews. D'ailleurs, vous avez rencontré énormément de jeûneurs. Ça s'appelle
Le jeûne, ça marche.
Ça marche.
Et ce n'est pas uniquement mon expérience, parce que lorsque j'ai eu envie d'écrire ce livre sur le jeûne, qui s'imposait à moi comme une évidence, puisque le jeûne a vraiment été très important dans mon parcours contre mon arthrose, je voulais pas faire un énième livre par la sachante que je suis. Je voulais vraiment laisser la parole, en fait, à ceux qui mènent l'expérience, parce qu'on préfère celui qui met les mains dans le cambouis que forcément celui qui reste sur la théorie.
Et on parle du jeûne thérapeutique jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bon, ça passe trop vite, on parle du jeûne thérapeutique ce matin avec mes invités, Laura Aznar qui est naturopathe et le docteur Jacques Roulier qui est médecin généraliste et qui est lui-même formé à la médecine du jeûne. Alors, comment on se forme à la médecine du jeûne ?
Un peu sur le tas, parce que la nutrition fait partie des domaines totalement délaissés par dans la formation des médecins en France. Il y a un DU, un diplôme universitaire de nutrition. Il y a même des diplômes universitaires de micronutrition. Mais enfin, c'est des petites choses en plus. C'est-à-dire que le tronc commun...
Dans le cursus normal.
Dans le cursus normal, c'est peut-être entre... Enfin, moi, dans mon cursus à moi, qui commence à dater un petit peu, mais il y avait peut-être 3 ou 4 heures d'information sur la nutrition. Les médecins sont formés au danger de la dénutrition, au danger des carences. Mais la nutrition en tant que telle, c'est pas du tout quelque chose qui fait partie de la formation des médecins. Hélas.
D'ailleurs, dans le jeûne thérapeutique, une des questions qui revient souvent, c'est la question des carences. Alors, j'aimerais qu'on parle des indications et des contre-indications médicales du jeûne thérapeutique. Alors, c'est indiqué pour quel type de pathologie et quelles sont les pathologies pour qui c'est validé ?
Alors, pardon de rester un petit peu prudent. L'accolement des deux termes jeûne et thérapeutique, ça pose un problème à la déontologie médicale.
En France.
En France, parce que ce code de déontologie dit qu'on n'a pas le droit de faire état, je ne parle pas d'appliquer, on n'a pas le droit de faire état en tant que médecin de méthodes qui ne sont pas suffisamment éprouvées.
Il y a des confrères qui se sont fait avoir.
Et non, personne ne s'est fait avoir parce que quel est le problème ? C'est l'évaluation des résultats du jeûne. Et cette évaluation, elle est compliquée parce qu'on ne peut pas faire comme le voudraient bien certains. Ils voudraient appliquer aux jeunes les méthodes d'évaluation du médicament, c'est-à-dire les essais randomisés en double aveugle, contre placebo, etc. Ce n'est pas possible de faire du double aveugle en ce qui concerne le jeûne, puisqu'on sait très bien si on mange ou si on ne mange pas. On ne peut pas tirer les gens au sort non plus, puisqu'on va perdre cette intention et cette prise en compte volontaire de sa santé. Et,
donc on ne peut pas évaluer...
Mais si, on peut l'évaluer. Alors il y a des gens qui travaillent là-dessus d'ailleurs, des gens qui ne sont pas des fous furieux. Il y a des gens qui, à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, en France... qui travaille sur l'évaluation des interventions non médicamenteuses, sur ce qu'on appelle la médecine intégrative. C'est quoi ça, la
Alors,
médecine
intégrative ? Alors, pour tout le monde, oui, la médecine intégrative.
C'est un ensemble, c'est-à-dire qu'on part non plus des protocoles médicaux, mais on part du patient. On va essayer d'apprécier ce que ressent le patient après telle ou telle méthode de traitement. Et c'est ça qui doit rester au centre. On va dire, c'est presque évident, ça devrait en tout cas être évident. Ce n'est pas toujours le cas de la médecine qu'on appelle en silo. Hein, vous savez, il y a les cardiologues, les pneumologues, les ophtalmologues, etc. Heureusement, il y a un peu les généralistes qui sont malheureusement de moins en moins nombreux.
Intégratif, ça veut dire aussi que tout le monde travaille avec tout le monde.
Voilà, ça veut dire qu'on travaille en équipe avec le point central qui est le patient. Donc, on ne va pas s'exclure mutuellement. On ne va pas dire l'homéopathie, ça ne sert à rien. La naturopathie, c'est du charlatanisme ou l'acupuncture, c'est pour les Chinois. On va dire qu'il y a un certain nombre de circonstances où on peut bénéficier à la fois de la médecine académique, on va dire ce que certains disent allopathique ou chimique ou ce qu'on veut, et puis disons conventionnelle, et puis d'autres méthodes.
Pharma, il y en a qui
voilà. Donc cette médecine intégrative, il y a une chaire en France à l'hôpital au CHU de Nice. Et il y a des gens, donc je vous disais, qui travaillent à l'INSERM sur des méthodes particulières d'évaluation de ces interventions particulières, non médicamenteuses, et des méthodes qui sont absolument scientifiques. Donc on avance dans la médecine intégrative, cette médecine qui est préconisée depuis seulement 20 ans par l'Organisation Mondiale de la Santé. Et là, on va dire très franchement, en France, on est totalement à la ramasse sur ce plan-là.
Comment on parle ? On parle d'indication du jeûne ? Comment formuler la chose pour pas être, pour pas se faire taper sur les doigts ?
On va dire qu'il y a des atouts thérapeutiques, il y a des bénéfices qui sont d'une part expliqués par la physiologie, par les études en biologie, un peu plus, on va dire, les études scientifiques. Et puis, il y a quand même un paramètre qu'on peut pas contourner, c'est la satisfaction des gens qui font du jeûne. Cette satisfaction qui fait qu'ils reviennent, qu'ils viennent faire un séjour de jeûne et qu'ils reviennent avec leurs conjoints, avec leurs enfants, avec leurs parents, avec des amis, parce que les 10 enfants, conjoints ou amis ont dit « mais on t'a jamais vu comme ça, qu'est-ce que t'as fait ?» Les indications, je réponds quand même, très clairement. On va dire les maladies inflammatoires dans leur ensemble, que ce soit les inflammations articulaires, qu'elle soit chronique ou aiguë, que ce soit la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, le psoriasis, etc. Toute cette panoplie d'affections qui sont pas mortelles, mais très, très handicapantes et très pénibles pour les patients. Les inflammations digestives, c'est-à-dire les maladies intestinales chroniques inflammatoires, on les appelle les MICI. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un travail qui se fait aussi petit à petit avec, en complément, des adaptations du régime alimentaire.
Alors, elles sont très à la mode avec toute la littérature autour du microbiote. Hein.
Absolument. Mmh. Le microbiote, si on prend ce point précis, il est modifié par le jeûne d'une façon extrêmement favorable dans le sens d'un équilibre. On sait que tous les déséquilibres du microbiote font le lit de beaucoup de maladies et que ces déséquilibres qu'on appelle les dysbioses sont malheureusement la cause d'habitudes alimentaires qui ne sont pas les bonnes. En termes d'inflammation, il y a aussi les maladies métaboliques. Hein. Le diabète, qui est considéré maintenant comme une maladie inflammatoire, le diabète de type 2, bénéficie de façon assez spectaculaire du jeûne.
Il y a des pays, par exemple, comme le Canada, où il y a des protocoles à base de jeûne pour le diabète de type 2. Alors, il y a toute une littérature qui est documentée sur notamment les chimiothérapies. Alors, sur l'intérêt de jeûner avant les chimios.
On est un petit peu au début de ça. Mmh. Hein. L'expert, qui est d'ailleurs un des membres de l'Académie médicale du jeûne, s'appelle le docteur Jean-Loup Mouisset, qui est oncologue, qui est le créateur des centres ressources. Alors lui, il est dans la médecine intégrative complètement, c'est-à-dire il a créé des centres où on va s'occuper de tout ce qui n'est pas médical pour des gens qui sont traités pour un cancer. Et donc Jean-Loup Mouisset, c'est quelqu'un qui est absolument convaincu des avantages possibles du jeûne pour la tolérance des traitements contre le cancer, que ce soit la chimiothérapie, la radiothérapie ou même des immunothérapies. C'est une façon de bien supporter le traitement, peut-être même de renforcer son efficacité. Et quand on tolère bien un traitement, on ne l'interrompt pas. Mmh. Donc, ça participe de son efficacité.
Et ça limiterait les effets secondaires.
Ça limite les effets secondaires, c'est-à-dire tout ce qui est désagréable quand on subit une chimiothérapie.
Laura, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur les maladies inflammatoires et sur ce que jeûner vous a apporté à vous? Donc là, c'est votre témoignage, en tant que patiente qui m'intéresse.
Oui, parce qu'effectivement, moi j'ai beaucoup de chance parce que je suis des deux côtés de la barrière. Je suis à la fois actrice et témoin. Mmh. Si vous voulez mon témoignage en tant qu'actrice, si je fais allusion à mon premier jeûne, je n'arrivais plus à monter les trottoirs. Et au bout du troisième jour de jeûne, j'arrive à remonter. J'avais choisi un endroit où les randonnées étaient très escarpées et j'arrivais donc à les faire très très facilement. Et en fait, il ne faut pas voir le jeûne comme un one shot. C'est pas uniquement je jeûne et je ne remets rien.
C'est un art de vivre.
Et je suis naturopathe, donc il y a toujours une affaire de terrain et de cause, un peu comme si cette arthrose était l'arbre qui cachait la forêt. Et le jeûne, moi, m'a permis en fait de m'occuper de ma forêt. Et c'est ça que permet le jeûne, en fait, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas bien, et voir comment est-ce qu'on peut être acteur. Et le jeûne, en fait, permet ça. C'est extraordinaire parce que, en fait, c'est le début d'une histoire, et ça vous invite à repenser votre façon de vivre.
Ce que fait souvent la maladie, d'ailleurs.
Aussi, effectivement.
Vous faites des cures de jeûne par an, à peu près, à quelle fréquence?
Moi, à titre personnel, alors ça dépend si je vais en Inde ou pas.
Parce que quand on vous appelle, vous êtes toujours plus ou moins en cure de jeûne. Donc,
parce que j'en organise, c'est pour ça.
Ah, c'est pour ça, oui.
Mais je ne jeûne pas à chaque cure. Mais effectivement, à titre personnel, je jeûne généralement deux fois par an. Mais ce n'est pas écrit sur l'agenda, parce que plus vous jeûnez, plus vous êtes connecté à votre besoin. Et ce qui veut dire que tout d'un coup, ça vous paraît évident que c'est maintenant. Et pas forcément parce que c'est le printemps, parce que c'est l'automne. Mmh. C'est des périodes qui sont vraiment très agréables aussi. Moi, j'ai été formée par Désiré Mérien en tant que naturopathe. C'est des périodes, en fait, qui nécessitent pas d'adaptation du corps.
Des quoi ?
Désiré Mérien, c'est un de nos hygiénistes, en fait, un de nos ambassadeurs aussi du jeûne. Et lui qui considérait qu'il ne fallait pas imposer au corps qui jeûnait des températures trop élevées, trop froides, trop chaudes, etc. Donc, du coup, effectivement, printemps, automne, c'est des périodes qui sont très appréciées. Mais plus vous jeûnez, et plus vous êtes connecté, et plus vous savez quand est-ce que c'est juste pour vous.
Alors, je voudrais qu'on donne des adresses pour une fois. On peut retrouver des informations sur le site de l'Académie, Docteur Rouillet. Alors, pour tous ceux qui cherchent des labels. Alors, vous n'organisez pas, à titre personnel, vous n'organisez pas de séjours de jeûne.
Non, l'Académie médicale du jeûne forme des médecins, des soignants, des paramédicaux et des médecins, à la connaissance du jeûne dans un premier temps. Deuxièmement, à la connaissance un peu plus approfondie et à l'expérience du jeûne. Ça, c'est toujours quelque chose d'essentiel à notre avis, parce qu'on peut toujours avoir des connaissances théoriques, mais tant qu'on n'a pas pratiqué, ça reste une information, comme disait Einstein. On va encore plus loin en incitant des confrères et des consoeurs à se former à l'accompagnement de jeunes, qui est cette fois un jeune avec accompagnement médical pour des gens qui ont des pathologies et qui nécessitent une attention particulière. C'est une attention qui est 24 heures sur 24, c'est-à-dire que dans ce type de séjour de jeunes, le médecin, il est présent sur place avec le groupe de jeûneurs 24 heures sur 24, il n'est pas à distance.
C'est pris en charge par la Sécu ?
Pas encore, hélas.
Alors, je pose la question parce que je n'ai l'impression, on ne mange pas beaucoup, mais ça a la réputation d'être un peu cher.
Bah, c'est-à-dire que si on s'attache à ce qu'on mange, c'est vrai que c'est central dans nos habitudes de vie. Mais
c'est que quand on part, on dit qu'est-ce qu'on a bien mangé.
Voilà. On a un rendez-vous, hein, si Laura, je peux me permettre.
Oui,
on a un rendez-vous au mois de mars 2024 qui va être à Aix-en-Provence et qui va être le premier congrès international du jeûne en France. Et qui va rassembler tout ce que compte sur le plan scientifique et un certain nombre de routards de l'expérience du jeûne pour faire le point sur les connaissances actuelles concernant le jeûne.
On fera, si vous voulez bien, une émission autour de cet événement après, d'ailleurs. C'est mieux quand après qu'avant.
On vous racontera.
Laura ?
Oui, je voudrais rajouter une dernière chose. Vous m'avez demandé qu'est-ce que le jeûne m'apporte. Je ne serais pas là sans le jeûne parce qu'on a parlé beaucoup des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques, effectivement, ils stimulent la neurogénèse, la connexion aux neurones. Et bien souvent, quand on jeûne, on décide. Il n'y a pas qu'une dimension anti-inflammatoire. On peut décider d'une reconversion professionnelle, par exemple. Et moi, mon
vous
premier jeûne...
Vous êtes sorti de l'autoroute, vous.
Complètement. Voilà. Et c'est exactement ça. On peut décider aussi de se marier, de divorcer, de déménager, de changer de métier très très facilement en jeûnant.
Bon, et je rappelle que vous avez écrit Le Jeûne, ça marche aux éditions d'Angle. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous l'écouterez sur toutes les plateformes qui reprennent nos programmes et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci à tous les deux d'avoir été ce matin. Merci Laura d'avoir bien travaillé et très belle journée santé sur beurrefm.
Merci.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.